France Inter, le 18-20.
Alors c'est pas encore pour cette fois, le débat sur dépénalisation, légalisation du cannabis, on ne veut pas l'avoir en France, on ne l'a pas en tout cas. En revanche, on est bien conscient qu'il y a un problème, nous sommes le pays des plus gros fumeurs de cannabis en Europe, avec l'arsenal qui est aussi le plus répressif, ça prouve bien que on ne sait pas faire, que le pénal en tout cas n'est pas dissuasif. La dernière réflexion en date, c'est un rapport parlementaire préconisant une amende aux fumeurs de cannabis, une amende, mais pour l'un des rapporteurs, on maintient l'idée de délit, pour l'autre, on devrait plutôt aller vers une contravention et une suppression de cette idée de délit. Bref, le débat tourne, les têtes et les joints, eux, tournent toujours. On en parle ce soir, bienvenue.
Fabienne Saint-Ès, le téléphone sonne.
Andrés, c'est vous qui commencez. Bonsoir Andrés.
Oui, bonsoir. Merci à France Inter de prendre mon appel.
Vous en priez, allez-y.
Alors, je vais essayer d'être concis et clair. Voilà, moi j'ai bien 57 ans, ça fait j'ai fumé pendant 30 ans du cannabis. Alors, sur les effets addictologiques, certes, je pense que les effets sont beaucoup plus pulmonaires parce que on le fume. Voilà, donc voilà ma position. Maintenant, le débat. Alors, faut-il mettre sous contravention ce produit? Alors, je vais faire une petite métaphore. J'ai l'impression tout simplement de me trouver comme à une époque à Marrakech où il y avait un gars qui vous vendait du shit et puis si c'était au-delà de 100 dirhams, il y avait des flics qui arrivaient, qui vous ramassaient le shit, ils vous faisaient peur, bakchis, on partait et puis voilà. Eh ben, le coût des amendes, c'est un peu la même chose. Excusez-moi du peu. Je pense qu'il faut être pragmatique. Cette guerre de produits expédients, tout le monde en a besoin dans cette société, qu'il soit pharmaceutique légal ou il faut absolument ce produit. Mais aller faire payer les jeunes, les gamins, les gens comme moi, les anciens 68-ards, les trentenaires, sous prétexte qu'ils ont fumé, alors là, ça devient de la rigolade. Messieurs les ministres, soyez pragmatiques. L'argent récolté dans un cadre légal, légiféré par des lois, par des gens qui ont réfléchi, écouté les addictologues, voilà, on pourrait faire de la prévention auprès de ces enfants, parce que aujourd'hui, c'est plus des joints qu'on met, c'est beaucoup plus grave ce qui se met dedans. Alors, il faut faire un cadre légal et aider cette société à évoluer.
On a compris voilà. Où vous allez, où vous êtes et ce que vous nous dites, Andrés. Merci beaucoup pour ce premier témoignage qui balaye déjà beaucoup de choses. Pour vous répondre ce soir, Andrés, et pour participer à ce débat jusqu'à 20h, Éric Pouillard est là. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de Gironde. Vous êtes co-rapporteur de la mission parlementaire sur l'usage des stupéfiants. Et vous, votre position, c'est une amende, mais on garde l'idée de délit, si j'ai bien compris. Jean-Pierre Coutron est là aussi. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération Addiction. Vous avez écrit Adolescents et cannabis, que faire? Dans la question, Éric Pouillard, je vais commencer avec vous. Dans la question d'Andrés, il y a quelque chose qui dit, de toute façon, c'est un combat perdu d'avance. Donc il faut le mener différemment. Est-ce que effectivement c'est un combat perdu d'avance?
Écoutez, je ne pense pas. Si nous le pensions, nous aurions effectivement préconisé autre chose. Savoir que nous avons travaillé dans la mission d'information sur l'ensemble des stupéfiants déjà, donc je voudrais préciser que nous ne travaillons pas que sur le cannabis, qui n'est pas tout à fait le cannabis et le contentieux majoritaire, on va dire, dans la consommation de drogue aujourd'hui en France, mais nous avions étudié l'ensemble du spectre stupéfiant. Et non, je ne pense pas que c'est un combat perdu d'avance, je pense que c'est un combat qui est malmené aujourd'hui.
Mais alors, malmené, ça veut dire quoi? Pour le mener bien, est-ce qu'une amende permet de le mener mieux, sincèrement? Parce que ce que ça dit, votre amende en creux, c'est que la pénalisation, de toute façon, ça marche pas, au fond.
C'est-à-dire qu'on, quand vous avez d'un côté un arsenal législatif ultra répressif et que d'un autre côté, à la fin, vous avez une réponse pénale qui mène, dans la majorité des cas, à un rappel à la loi, effectivement, vous avez une forte dissonance entre une volonté politique et une efficacité réelle de la loi.
Voilà, on va juste rappeler quelques chiffres. 1 400 000 usagers réguliers, en gros, du cannabis, c'est des chiffres que tout le monde a, 70 000 quotidiens, 140 000 interprétations, 3 000 peines de prison. Ça veut dire qu'on s'attaque en gros aux gros trafiquants, mais qu'au-dessous, on n'a pas les moyens, on n'a pas envie, j'imagine. C'est une perte de temps, non, Jean-Pierre Coutron? Est-ce qu'on dit les choses comme ça?
Non, c'est que la sanction prévue par la loi est très lourde. Et donc, depuis des années, on cherche à une sorte de réponse graduée. Le mythe auquel répond cette Xème réforme, c'est la réponse graduée. Alors, on nous l'a vendu injonction thérapeutique, on nous a vendu les stages, on nous a vendu le rappel à la loi. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut une première réponse, puis une deuxième réponse, puis une troisième réponse. On ne va pas tout de suite couper la main humain dès la première faute. Donc ça, c'est un
c'est premier... la réponse au gramme, en fait.
Voilà, mais c'est ça qui est compliqué. Hein. C'est un, c'est pas forcément la réponse au gramme, c'est la réponse à la trajectoire à l'intérieur d'un comportement qui évolue ou qui n'évolue pas. Et le deuxième problème, c'est qu'en France, on reste persuadé depuis les années 70 qu'il faut interpeller et qu'il faut sanctionner pour amener aux soins. Or, on ferait mieux d'essayer d'amener aux soins sans avoir besoin de l'interpellation et de la sanction, en développant, comme dans d'autres pays, des modes de rencontre et des modes de prévention beaucoup plus offensifs, beaucoup plus précoces et beaucoup plus proches de l'endroit où se font les usages. C'est pour ça. Là, on parle sur 140 000 cas, excusez-moi, mais c'est vraiment peanuts par rapport aux chiffres que vous avez évoqués, alors que le vrai débat serait qu'est-ce qu'on fait pour les millions d'autres qui ont besoin éventuellement d'être rencontrés, d'être aidés, et pour d'autres, ils ont juste besoin d'accéder à un cannabis médical qu'on n'a toujours pas réglé. Pour d'autres, on a besoin de réfléchir au fait qu'un adulte, c'est pas la même chose qu'un enfant. On pourrait fractionner le problème plutôt que de le prendre de façon mythologique, la drogue.
Éric Pouliot, est-ce que lorsque vous avez discuté, vous avez mis sur le papier aussi, ok, dépénalisation, cannabis thérapeutique, etc. Est-ce que toutes ces options-là ont existé ou est-ce qu'on se dit non, on n'est pas prêt avec ces options-là, donc on ne les imagine même pas?
On les a, disons, on a audition, au cours de nos auditions, on a évoqué ces sujets, mais vous savez, une mission d'information, elle est cadrée, elle a un cadre, et ce cadre-là était la mise en application d'une amende forfaitaire pour la consommation illicite de stupéfiants. Donc, en aucun cas, la dépénalisation, ou la légalisation, ou le cannabis thérapeutique. Après, j'ai un avis personnel sur ces sujets-là. Sur le cannabis thérapeutique, par exemple, j'y suis tout à fait favorable sous sa forme chimique. C'est-à-dire, un médicament au cannabis, ça ne me pose pas de problème. Je suis absolument, par contre, opposé à l'autoculture ou à la prise de, ou à fumer un joint, en gros. Pour des raisons thérapeutiques. On a vu ce que ça donnait au Colorado, par exemple. Donc, je suis opposé. Par contre, qu'il y ait des médicaments, comme il y a aujourd'hui des médicaments à la codéine, à la morphine ou à l'opium, qu'il y ait des médicaments à base de cannabis, ça ne me pose aucun problème.
Dust nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous écoute.
Déjà, merci d'avoir pris mon appel.
Je vous en prie, poussière.
Petite précision, je trouvais que vous, au sens pluriel du terme, vous aviez des voix qui déchirent, quoi.
Ah ben, écoutez...
Vous parliez de ça juste avant, en fait.
C'est vrai, on en parlait dans le journal, ouais. Allez-y, Dust, voilà. On vous écoute.
Et au sujet des amendes, eh bien, écoutez, si c'est ça, prendre une amende ou me retrouver au tribunal en train de me faire montrer du doigt parce que j'ai fumé un pétard et m'obliger à faire un stage de réinsertion de je sais pas quoi, je préfère une amende. Quant au reste, la dépénalisation, je suis foncièrement contre, même en tant que fumeur, parce qu'il n'y a que deux possibilités. Soit c'est interdit, soit c'est légal. Et quand c'est légal, ça veut dire qu'on a accès à l'emploi au niveau de la production et de la commercialisation, ça veut dire qu'on a accès à l'impôt, puisque l'État prend sa dîme, et à partir du moment où on a de l'argent, on peut faire de la prévention auprès de la jeunesse, parce que comme l'a dit votre interlocuteur, un adulte, c'est pas un enfant. Donc, dans ma tête, il n'y a que deux États, légaliser ou interdire. Et éventuellement, ouais, une amende, mais c'est vraiment pour me casser les pieds qu'ils vont faire ça, quoi.
Voilà, et ce sera donc persuasion zéro, vraisemblablement, quand on écoute Éric Pouliot, quand on écoute Dust, c'est persuasion zéro, l'amende, en fait. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre.
Si, il y a une forme de dissuasion, puisque
sur la
voie publique, si vous fumez sur la voie publique, par exemple, pour les fumeurs, mais encore une fois, on va parler principalement des fumeurs, mais si vous fumez sur la voie publique, vous aurez une amende. Donc, et le fait que ce soit visible ou ostensible pose quand même une question par rapport à un interdit social, je le rappelle, c'est toujours un produit interdit.
Jean-Pierre Coutron, on reparlait à l'instant de prévention. Est-ce que ça existe réellement, la prévention? Est-ce que surtout, je vais dire les choses comme ça, est-ce que ça intéresse réellement les gens? Est-ce que vous voyez venir des jeunes qui ont besoin d'entendre des conseils de prévention?
Bien sûr qu'on ne voit pas venir des jeunes qui ont besoin d'entendre des conseils de prévention. Si vous côtoyez des jeunes, vous savez qu'ils ne viennent pas spontanément. Ce n'est pas un reproche à leur faire. Les jeunes, quand ils ont 15-16 ans, ils ont deux expériences étranges à faire. Prendre leur autonomie, c'est-à-dire faire sans papa-maman, faire entre eux, et sentir ce chose extraordinaire, vivre autrement. Donc ils vont le faire loin de nous. Et tout l'art de la prévention, c'est d'avoir anticipé ça dans un certain nombre d'étapes, ce que certains pays ont fait très bien. Et de l'autre côté, dans ces moments-là où les expériences se font, parce qu'il y aura toujours des expériences, d'avoir des adultes qui font de la réduction des risques, d'avoir des adultes qui font de l'accueil et de la rencontre. Je m'excuse, mais avant de venir ici, j'en ai encore vu trois cet après-midi, en consultation aux jeunes consommateurs, qui avaient 15-16 ans, qui n'étaient pas volontaires pour venir, mais qui n'avaient pas besoin d'être interpellés, qui venaient accompagnés par les parents. C'est ce travail-là, ce travail éducatif qui est complètement désabandonné en France. Et du coup, on ne mise que sur l'interpellation.
La raison pour laquelle je vous pose la question, Jean-Pierre Coutron, c'est que vous avez probablement vu cet après-midi tomber ce sondage de l'Observatoire des drogues et des toxicomanies qui fait parler des jeunes. Mmh. Et ce sont des choses terribles qu'on lit. On lit, le pétard, ça a meilleur goût que la cigarette. C'est plus sain. C'est une initiation et une expérience positive.
Ça,
donc on a l'impression qu'on a réussi. D'un côté, la cigarette,
ouais,
c'est très mal. Et oui, le joint, c'est bio.
C'est le résultat du fait que, d'ailleurs, Éric Pouya essaye de nous rectifier là-dessus, qu'on parle par produit et qu'on ne parle pas addiction de façon globale. Mmh. Donc, les jeunes sont très forts comme d'autres pour retourner un raisonnement. On a très bien expliqué la dangerosité chimique du tabac, de la cigarette, et ils ont inventé un concept de cannabis absolument bio. Le cannabis absolument bio n'est pas aussi bio que ça, la résine n'est pas aussi bio que ça, voilà. Et la deuxième façon, ils ont retourné le fait que le cannabis a des effets psychotropes apaisants, tranquillisants, versus le tabac, qu'on ne prend, et ils le disent, que pour faire comme les autres, voilà. Et la troisième chose qu'ils nous disent, c'est que de toute façon, les trois drogues confondues, ils y vont au nom de la pression sociale, du fait d'être comme les autres. Et ça montre bien que là, c'est un boulot d'éducation et de prévention, c'est pas un boulot d'interpellation qui résoudra ça.
Alors justement, on est dans le même sujet avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Oui.
Et on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci pour vos émissions. J'ai une question très très simple, c'est pourquoi l'État autorise la distribution de certaines drogues, alcool et tabac, et en interdit une autre. Il n'y a aucune logique, soit on autorise et donc on légalise le cannabis pour justement l'encadrer, faire que on distribue des bons produits, etc. Je sais pas pour ma paroisse, je ne fume pas de cannabis. Mmh. Mais quelle est la différence des gens qui ne veulent pas légaliser, quelle différence sont-ils entre l'alcool, le tabac et le cannabis, alors que les trois sont addictifs et posent des problèmes de santé publique?
Merci pour votre question, Pierre. Qu'est-ce qu'on répond à Pierre, Éric Pouya?
Je le rejoins sur la problématique de l'addiction, complètement. L'alcool ou le tabac, aujourd'hui, sont des produits totalement addictifs, et on voit bien qu'en termes de santé publique, c'est pas la fiscalité sur l'un ou sur l'autre qui vient compenser les coûts en termes de santé publique derrière. Donc là aussi, moi, je me permets de retourner le sujet en disant qu'on voit bien que la légalisation d'un produit toxique n'en diminue pas le coût en termes de santé publique.
Mais est-ce qu'on les met tous sur la même échelle de danger? Est-ce que le cannabis est aussi dangereux que l'alcool, aussi dangereux que le tabac?
Je fais une réponse simple. On nous a dit de façon unanime pendant les auditions que faire une espèce de graduation ou de hiérarchisation des produits toxiques était une ineptie. Il y a les produits toxiques et les produits pas toxiques.
Mais donc, ça veut dire produit. Donc, est-ce que le cannabis est toxique ou pas toxique?
Ah, mais il l'est. Il est toxique.
Mais interdit. Est-ce que le tabac est toxique ou pas toxique? Il est toxique, mais autorisé. Et donc, je comprends du coup la question de Pierre qui pointe aussi les absurdités de tout ça.
On peut
en fait
le dire simplement. On le voit bien. On a des familles qui nous amènent un jeune. Eh ben, c'est un exemple classique. À trois mois du bac. S'il fume une cigarette, on va dire que c'est pas grave, parce que le cancer, c'est plus loin. Je vois Agnès Buzyn, voilà, je veux pas me mettre en colère contre elle, mais on va dire que c'est pas grave. Le cannabis, à trois mois du bac, on va paniquer, parce que le principal effet, chez un jeune, il peut être sur les fonctions exécutives, la mémoire, la concentration, l'apprentissage. Donc la notion de dangerosité, elle est très relative. Le tabac au volant, c'est pas le plus dangereux. Le cannabis et l'alcool sont beaucoup plus dangereux. Donc on va jouer. C'est pour ça qu'on a, on dit il faut pas les classer. Après, la question de l'auditeur est juste. On n'est pas en France capable de réguler. Le problème des drogues légales, c'est pas qu'elles sont légales. C'est qu'avec l'alcool, on a assoupli la loi Evin, on a autorisé de plus en plus la publicité, on est incapable de faire appliquer l'interdiction de vente aux mineurs, ainsi de suite. Le problème du tabac, c'est qu'il a fallu petit à petit monter, se remobiliser pour faire comprendre la dangerosité. On pourrait imaginer que le cannabis serait placé dans une zone de commerce avec une régulation un peu plus stricte. Si l'État prenait ses responsabilités, il est possible d'imaginer un marché avec une régulation un peu plus stricte. Ce débat, ce serait intéressant qu'on l'ait.
Mais par exemple, je ne vois jamais de campagne de publicité. Il y a des campagnes contre l'alcool au volant, il y a des campagnes contre le tabac, il y a des campagnes, etc. Une campagne contre le cannabis, ça n'existe pas. Est-ce que ça veut dire que ce serait inopérant, que ça ne marcherait pas? On n'a pas envie de le faire? Pourquoi est-ce que ça n'existe pas?
Alors nous avons un gros problème, c'est qu'on a du mal à communiquer sur ce qui est interdit, en fait. C'est-à-dire qu'on fait des campagnes sur ce qui est autorisé, cigarettes, alcool, vous le direz peut-être mieux que moi, mais on a du mal avec ce qui est interdit, puisqu'il faut rentrer dans le
Puisque ça n'existe pas, voilà.
Il y a eu une campagne qui a été faite, à l'époque c'était Didier Gelle qui était président de la MILT, et c'était, ça s'appelait « Le cannabis est une réalité », et on avait décrit les effets un peu, justement, sur les fonctions exécutives du cannabis. C'était la première campagne là-dessus, et il y a eu quand même récemment, alors il se trouve que c'est arrivé au moment des attentats et que ça a été un peu étouffé, deux campagnes intéressantes, pas centrées sur le cannabis, mais centrées sur l'alcool, le tabac et d'autres comportements des jeunes, voilà, et autour des consultations jeunes consommateurs. On en parlait en leur proposant une solution, ce qui est une des meilleures solutions. Ça vient d'être évalué par une commission chargée d'évaluer la politique publique qui a montré que cette campagne et cette action avaient été intéressantes.
Oui, j'en suis convaincu.
Cette question sur franceinter.fr, le mode des régulations comme au Colorado ne serait-elle pas plus efficace? Vous avez évoqué le Colorado, Eric, pour lire tout à l'heure. Vous pensez que c'est un échec, vous, le Colorado?
Ah, clairement.
C'est le premier État, hein, c'était 2012, je crois. C'est le premier État à avoir rendu le cannabis légal.
Ah, c'est clairement
d'avoir dépénalisé.
C'est clairement un échec, et je pense même qu'ils reviennent progressivement vers la façon dont ils ont régulé, on va dire, le cannabis.
Clairement un échec sur quoi? Parce que moi j'ai des chiffres qui disent que l'augmentation des jeunes, par exemple, n'a absolument pas augmenté, est totalement stable. Ah, que ça a légèrement augmenté pour ce qui est des adultes.
Des adultes,
en
tout
revanche.
À fait. Voilà. Ce qui veut dire qu'en volume, vous avez plus de consommateurs qu'avant la régulation.
Alors, là-dessus, non pas pour polémiquer, mais pour éclairer. Je suis pas un fan du modèle du Colorado. On pourra dire que, par exemple, ils ont lancé des gâteaux, des bonbons qui ont donné des accidents pédiatriques et qu'ils reviennent. Alors, quand ils reviennent, c'est intéressant parce qu'en France, on voudrait que ce soit... Ça ne bouge plus. Les autres pays ont toujours eu des politiques beaucoup plus souples. Ils ouvrent, ils referment, ils ouvrent, ils referment. Ils font un pas dans une direction, ils font un pas dans l'autre. On a une mythologie de « faudrait pas que ça bouge ». Donc le Colorado est intéressant. Ils sont certainement allés trop loin sur certains sujets. Oui. Ils rectifient. La deuxième chose, c'est que augmenter le nombre d'usages, si on n'augmente pas le nombre de problèmes de santé, c'est pas forcément problématique. Et il y a des façons de consommer le cannabis chez des adultes qui n'augmentent pas le problème de santé. Si on ne le consomme pas en fumée pour éviter les cancers, et si on le consomme de façon modérée quand on est adulte, on a, écoutez, pas plus de problèmes de santé qu'avec d'autres psychotropes légaux.
Sur cette étude que j'ai là, il y a aussi cette remarque qui dit « Il est impossible toutefois de dire si les habitants ont réellement changé ou si la légalisation encourage les habitants du Colorado à davantage dire la vérité. » Quand on pose une question sur un produit qui autrefois était illicite, ça donne des résultats qui peuvent être un peu bizarres.
Il y a aussi deux autres choses dans cette étude, vous faites référence à l'étude Canalex.
Ouais.
Il y a aussi deux autres choses. La première, c'est que le trafic n'a pas diminué. Le marché noir n'a pas baissé, ce qui veut dire que là aussi l'impact sur le trafic est... Et il faut aussi mesurer que la santé publique aux États-Unis n'est pas la même qu'en France. C'est-à-dire que la société ne le supporte pas de la même façon. Enfin, ne le porte pas, de la même façon. Ce qui veut dire que c'est facile dans un État américain aujourd'hui de légaliser un produit toxique. Tant pis, c'est l'individu qui se drogue qui aura à sa charge le coût de santé. En France, ça ne marche pas comme ça. Donc dans 20 ou 30 ans, si on légalise aujourd'hui en France, le coût de santé, il serait pour tout le monde.
Santiago nous appelle au 01 45 24 7000. Santiago, bonsoir, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Je voulais continuer sur la notion du cannabis thérapeutique. Je suis atteint d'une maladie rare et incurable. Rare, donc pas de traitement rendu et pas de recherche non plus autour de cette pathologie. Je suis atteint de cette maladie depuis 7 ans. Et il y a 3 ans, par hasard, j'étais avec un ami qui avait du cannabis, j'ai fumé. Et j'ai constaté en fait que ça avait eu quelques effets bienfaisants ce jour-là sur ma façon de récupérer de la fatigue qui est créée par la maladie, sur aussi un peu de détente, un peu plus de sérénité en fait à l'approche du soir. Et depuis donc, j'ai pris l'habitude de fumer un joint tous les soirs. Ce qui m'évite de prendre des antidépresseurs, des neuroleptiques.
C'est la question que j'allais vous poser, en fait. Ça vous fait un effet différent d'un anxiolytique ou d'un antidépresseur?
Oui, parce que ça m'évite les diarrhées, ça m'évite tout un tas de désagréments.
Effets secondaires,
d'effets secondaires. Il se trouve que cette maladie est assez invalidante, le fait de pouvoir mieux récupérer, notamment la nuit, me permet de passer de meilleures journées aussi, quoi, et de donner un peu plus d'avoir un peu plus d'énergie le jour.
Et Santiago, qu'est-ce qu'il dit votre médecin? J'imagine que vous lui en avez parlé. Qu'est-ce qu'il dit?
On en parlait avec le médecin, bien sûr. Bah, qu'est-ce qu'il dit? Il fait exactement comme pour les campagnes de prévention dont vous parliez il y a très peu. Bah, il botte en touche et il dit moi, j'ai pas le droit d'en parler. Voilà, je ne vais pas enfreindre la légalité, la loi. On n'a donc pas le droit d'en parler. Dans un coin, il est à peu près d'accord avec moi. C'est-à-dire que il part du principe où si ça me convient et bon, pourquoi pas. Avec le problème qui est que moi, je souhaiterais que ce soit officiel pour établir d'abord une posologie, parce que j'ai eu une période où j'ai fait un peu d'abus, quoi. Donc ça s'est ressenti aussi sur une autre partie de la santé, donc j'ai pas envie d'en arriver là. Donc j'aimerais pouvoir établir une véritable posologie. J'aimerais aussi avoir accès à une qualité de produit qui soit vérifié, qui soit en laquelle je puisse avoir confiance. Je voudrais ne pas être considéré comme un délinquant lorsque je vais acheter mon shit. Je voudrais aussi ne pas voir des gamins dealer dans la rue. Je voudrais ne pas avoir vent de fusillades qui ont lieu dans les quartiers, etc. Enfin, j'aimerais être un honnête citoyen, quoi.
Et on comprend ce que vous dites, Santiago. Je rebondis juste un instant avant sur la difficulté d'aller aussi le chercher, en fait, son cannabis pour Santiago. Il y a une enquête dans Les Inrocks cette semaine qui expliquait aussi la facilité, j'ai envie de dire déconcertante, quand même, il y a des applis qui existent aujourd'hui, la facilité déconcertante avec laquelle on peut se procurer ce genre de produit. Éric Pouliot, vous disiez, vous êtes favorable au cannabis thérapeutique. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas exister en France?
Parce que carrément là une évolution du cadre législatif, mais encore une fois je le disais, sous sa forme chimique, c'est-à-dire pas question d'autoriser la vente légale de cannabis l'autoculture. Ça a été le cheval de Troie au Colorado pour la régulation du cannabis.
Autoculture avec un nombre de plants.
Ça a été le cheval de Troie. Ils ont été submergés en quelques mois. Et au final, ils ont fini par réguler. Donc, je suis pas favorable à cette méthode. Je suis favorable au fait que, effectivement, si le cannabis produit des effets thérapeutiques, notamment sur la douleur, bien sûr qu'il faut arriver à l'autoriser, mais sous une forme d'un médicament et pas d'une pratique illégale.
Jean-Pierre Coutron, je sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Est-ce qu'on sait si le cannabis thérapeutique, s'il était pris dans une pilule, aurait exactement le même effet que le joint que fume Santiago avant d'aller se coucher le soir?
Je voudrais d'abord dire qu'en théorie, le cannabis thérapeutique s'est autorisé en France. Le cadre légal a été modifié pour. Et là où on n'est pas d'accord, c'est sur le prix. C'est médiocre, mais ça fait 3 ans qu'on est bloqué pour une dernière étape, la commission du prix, sous une forme qui était le Sativex, qui avait été retenu sous la précédente mandature.
Est-ce que les effets sont exactement les mêmes?
Effectivement, comme tout médicament, selon la forme dont vous le prenez et la composition exacte, vous allez avoir des différences. Et c'est pour ça que des usagers continuent de réclamer qu'il y ait aussi la possibilité d'avoir un cannabis qu'ils pourraient inhaler, qu'ils pourraient fumer. Voilà. Si on était dans une logique de cannabis thérapeutique, on pourrait faire quand même un minimum confiance à un certain nombre d'instances qui sont là pour réguler le statut du médicament, qui en France fonctionne plutôt bien. On a évité d'autres problèmes qu'il y a ailleurs, et on pourrait se mettre d'accord sur une ou deux formules, comme dans d'autres préparations pharmaceutiques, permettant d'accéder. Des témoignages comme celui de notre auditeur, chaque fois que je passe sur une émission, il y en a. Quand j'aurai raccroché, il y a des gens qui vont m'appeler pour me dire « moi j'en cherche pour ma grand-mère, moi j'en cherche pour des personnes ». On l'avait dit avec l'audition. Et je voudrais rendre hommage aux deux rapporteurs qui ont, dans la qualité de l'audition, des interpellations, ils ont même rencontré des associations d'usagers, ce qui ne s'était jamais fait dans notre République un peu sclérosée. Et là, on a senti un vent d'air frais passer de la part des deux rapporteurs. Mais on leur a demandé, alors effectivement, c'était pas leur mandat, mais on leur a demandé de faire entendre plus on accélérait le cannabis thérapeutique, plus des milliers de personnes, peut-être pas des dizaines, mais des milliers de personnes seraient sorties de ce trafic, de cette pénalisation, de cette stigmatisation, alors qu'ils demandent juste à aller vers un traitement. Et après, il y a un troisième niveau, il faut finir de consolider certaines recherches, parce que comme c'était interdit, le cannabis n'a pas toujours été suffisamment étudié, et là encore, il y a en France un grand spécialiste, Nicolas Autier, il y a des patrons qui sont prêts, des PUPH qui sont prêts à chercher là-dessus, donnons-leur les moyens, et finissons de régler cette partie-là. Si on enlève bout par bout, le problème sera moins pesant.
Bonsoir Régis.
Oui, bonsoir.
Bienvenue dans le téléphone sonne, Régis, on vous écoute.
Merci, je voudrais vous faire part de mon témoignage. Dans mon entourage proche, un jeune qui était lycéen a fumé du cannabis et cela a eu pour effet de déclencher des bouffées délirantes aiguës. C'est un phénomène reconnu. Or, ces bouffées délirantes aiguës, ce sont les prémices de schizophrénie et chez beaucoup de jeunes, comme chez ce proche, ça interrompt son cursus scolaire et c'est un fléau pour toute la vie de beaucoup de jeunes. Donc j'aimerais vous poser la question, comment prévenir ce fléau chez les jeunes si on légalise le cannabis ?
Jean-Pierre Coutron, alors on n'est pas à la légalisation, hein, on l'a bien compris. Votre réponse est, et surtout, est-ce que le lien cannabis-schizophrénie, est-ce qu'il est établi ? Est-ce qu'il y a vraiment une relation de cause à effet ?
D'abord, je voudrais être clair avec notre auditeur. Personne, même les plus grands militants de la dépénalisation du cannabis, n'envisage de rendre le cannabis accessible pour les mineurs larga manu. Voilà, on est clair là-dessus. Personne, dans les auditions ou ailleurs, et même dans les expériences au Colorado, partout aux États-Unis, c'est 21 ans. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas l'effet le plus classique, le plus majoritaire du cannabis, mais on sait qu'il y a un lien chez des jeunes prédestinés, dans un usage précoce et intensif, avec une composition de cannabis qui est plus du côté d'une...
Chez des jeunes prédestinés, ça veut dire que s'il y a un terrain, il est accéléré.
Voilà, il y a un terrain, et avec des compositions de cannabis qui, plus il est dosé dans le fameux THC, plus à ce risque-là. Donc, ce risque-là est connu. En France, on a pareil, une grande professeure de psychiatrie, Marie-Odile Krebs, qui essaye de nous dire aussi, la solution, c'est aussi de mieux repérer précocement les publics en danger de schizophrénie et d'avoir vis-à-vis d'eux une politique de réduction des risques particulièrement efficace. Dans une consultation jeune consommateur, on aura aussi ce diagnostic-là d'identifier qu'avec des jeunes, il faut agir très vite. Avec d'autres, on a un peu plus le temps de les accompagner.
Deux petites choses que je voudrais rajouter. La première, c'est que effectivement, il y a un terrain, mais il y a des gens qui sans la drogue ne deviendraient jamais schizophrènes.
Ça déclenche.
Voilà. Et puis deuxièmement, il y a d'autres effets aussi, qui sont simplement des effets de déscolarisation, etc., qui ne sont pas des effets psychiatriques, mais qui sont assez rédhibitoires dans l'évolution.
Vous avez interpellé en disant que 3 mois perdus pour certains jeunes, c'est une vie foutue en l'air.
Alors, justement, il y a aussi la perception du danger que peuvent avoir certains jeunes. Bonsoir, Paul.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y, Paul. Bienvenue sur Inter.
Alors, je suis professeur de SVT dans un lycée. Je suis aussi consommateur depuis très longtemps de cannabis. Et on enseigne en première...
Si vous êtes prof de SVT, c'est que vous le faites pousser vous-même, alors c'est ça l'idée.
Oui, ça pourrait être l'idée, voilà. mais pas avec mes élèves, bien sûr, c'est ma vie privée.
allez-y, Paul.
Et donc, chez les élèves, le cannabis est quelque chose d'extrêmement banal et présent, dans ce qui les entoure, dans leur vocabulaire, par exemple. Moi, j'entends énormément, par exemple, le mot charbonné, qui est synonyme, en fait, de ces jeunes qui vont charbon, c'est-à-dire qui vont dealer dans les rues. Pour eux, ça fait partie de leur vocabulaire. Et dans la musique qu'ils écoutent, c'est aussi extrêmement présent. Les clips, on voit régulièrement les clips, les gens qui... etc. Et pourtant, le cannabis est banal, mais ils suivent bien le discours officiel. C'est-à-dire que les drogues dures, pour eux, c'est l'héroïne, la cocaïne, le crack. Mais par contre, ils ne pensent pas que le tabac et l'alcool, qui font énormément de ravages, sont des drogues dures, au même titre que certains médicaments, type antidépresseurs ou Subutex ou choses comme ça, qui sont vendus par l'État. Qui est en fait, on pourrait le dire, le premier pourvoyeur de drogue dure en France.
Mais vous, Paul, qui êtes fumeur, vous leur dites quoi à vos élèves ?
Ben, je leur dis d'abord que pour leurs études, c'est pas la bonne solution, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'élèves qui consomment aussi dans l'enceinte aux abords du lycée, qui en achètent. Et que nous, dans le cours en question, on aborde surtout le problème du LSD. Et moi, je fais une prévention, entre autres, sur tout ce qui est chimique, qui a beaucoup, quand même, qui a de l'attrait, les petites pellules, les ecstasy, MDMA, qui connaissent tous. Et je leur explique bien que ces produits, à cause aussi de la prohibition, on n'est jamais sûr de la qualité du produit.
Mais c'est vrai aussi du cannabis, Paul, honnêtement.
C'est lié aussi à la prohibition. D'ailleurs, si vous allez à Mayotte, on vend du faux cannabis, qui est du cannabis synthétique et qui fait énormément de ravages.
Et qui est extrêmement dangereux, effectivement. C'est ce que confirme Jean-Pierre Coutron.
D'où l'idée, effectivement. J'ai été amené, moi, le cannabis que je fume, je le produis moi-même, parce que l'idée d'avoir un produit de qualité et surtout de ne pas être amené à aller chercher dans la rue et qu'on me propose autre chose, en fait, ou des produits de mauvaise qualité.
Merci.
Surtout pour les jeunes, ils vont être amenés, en allant acheter dans des systèmes parallèles, on leur proposera Ecstasy, de la coke, parce que pour eux, la coke, c'est maintenant un produit un peu hype et accessible. Donc voilà, c'est vraiment inquiétant, parce que moi aussi j'ai des enfants et je voudrais pas qu'ils tombent dans ce circuit-là et qu'ils deviennent aussi de fait des criminels,
merci,
des délinquants.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Paul. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que vient de dire Paul. D'abord, la perception que les jeunes peuvent avoir, Jean-Pierre Coutron, du cannabis.
Oui,
très loin derrière.
Et là, on a vraiment à retravailler nos campagnes d'information. C'est pas faute pourtant d'en voir. Si vous regardez le discours sur les risques du cannabis, est quand même majoritairement souvent tenu dans les médias, mais il n'est pas entendu parce que probablement on n'est pas crédible sur la façon dont on le tient. Ensuite, cette espèce de décalage entre produits nous décrédibilise, c'est vrai que... Et la troisième chose, on a du mal à parler de l'effet qu'ils ressentent le plus.
Ouais.
Or, ce matin, j'étais sur un autre témoignage, le jeune disait, moi quand je l'ai pris, ça m'a apaisé. Et il faut partir de ce que les jeunes ressentent.
Mais alors, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On est capable de dire en France, voilà, la voiture tue 4000 personnes par an, l'alcool tue je ne sais pas combien de personnes par an. Pourquoi est-ce qu'on est incapable de donner ce chiffre, là par exemple? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est crédible? Le cannabis tue tant de personnes.
Alors, si on veut donner le chiffre des morts par le cannabis, il est ridicule, il est très faible. On commence à l'attraper sur certains accidents de santé et sur une partie de l'accidentologie routière. Voilà. Encore une fois, le risque du cannabis, c'est chez un adolescent. C'est cette déscolarisation ou cette perte de chance en termes. Moi, j'ai travaillé dans des quartiers difficile de la banlieue parisienne. Les gamins qui loupaient un trimestre dans ces établissements scolaires, ils n'avaient pas de rattrapage. Depuis quelque temps, je travaille dans une belle banlieue, on m'amène le coach éducatif qui aide le gamin à se remettre sur les rails, il n'aura pas les mêmes conséquences. Mais le grand effet du cannabis, c'est sur les fonctions exécutives, sur l'apprentissage, sur la scolarité. C'est pour ça qu'il faut mettre ce travail d'éducation et de prévention au contact, et il faut rentrer un tout petit peu dans l'éducation nationale en regardant les choses qui sont là. Ce que disait l'auditeur en plus n'est pas complètement faux. Il faudrait qu'on arrive à raisonner entre la différence entre adultes et adolescents. On essaye de le faire pour les autres drogues et on le fait mal.
C'est vrai ce que dit Paul, lui qui est un adulte responsable, c'est vrai ce que dit Paul, un gamin qui va chercher son shit dans la rue peut tomber aussi sur quelqu'un qui lui donnera un mauvais produit ou autre chose.
Bien sûr.
Ça existe vraiment.
Et en dehors d'un mauvais produit, des dosages de THC.
Ils n'ont plus besoin d'aller dans la rue. Hein.
Alors en plus, par ailleurs, ça devient extrêmement simple. Bonsoir Dominique.
Bonsoir madame.
Et je vous écoute Dominique, allez-y, soyez le bienvenu sur Inter.
Je vous remercie. Juste pour poser la question de ce qu'il adviendra des toxicomanes, enfin des usagers qui seront pris en train de consommer, il est prévu une amende. Mm-hmm. Or, moi je suis magistrat et je suis bien placé pour savoir que l'immense majorité des amendes, elles ne sont pas payées. Le Trésor public considère que c'est trop coûteux, trop de démarches, trop difficile pour un gain qui est hypothétique et insuffisant. Alors, dans ce cas-là, lorsque l'amende ne sera pas payée, que deviendra cette procédure? Si ce n'est à encourager un petit peu cette toxicomanie et à dépénaliser de fait, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, avec ce principe d'amende, c'est une dépénalisation de fait, quoi.
Eh bien, on va poser la question telle que, Dominique. Merci beaucoup, Éric Pouillat. Est-ce qu'il y a un petit côté pénalisation de fait? Parce qu'effectivement, on donne l'amende. Qu'est-ce qui se passe derrière?
Alors, la dépénalisation de fait, elle existe déjà. On ne va plus en prison pour de l'usage simple.
Certes.
Voilà. Donc déjà, ça, c'est une réalité.
Toujours important de faire la différence entre dépénalisation, légalisation, qui sont deux choses qui sont intégralement différentes.
On ne va plus en prison, quoi.
Absolument.
Voilà. La question de l'amende, elle est avant tout pour rappeler un interdit social. Sur la question de l'auditeur précédent, je me permets de faire le pont entre les deux, il y a quand même une dimension d'éducation. Enfin, je veux dire, la banalisation chez les jeunes, elle est aussi une conséquence de la banalisation chez les adultes. Donc quand les adultes, déjà, on leur rappellera aux adultes l'interdit social par un système d'amende, de manière simple, rapide et systématique, déjà, les mineurs comprendront que c'est interdit. Parce que ça aussi, il y a quand même... on voit bien, l'auditeur était simple. Donc, après, vous parlez du recouvrement... après, l'auditeur parlait du recouvrement de l'amende. On met un montant 150-200 euros, ouais. C'est celui qui est estimé, c'est un montant assez faible.
Oui, encore que, donc c'est quand même un montant.
Bon, sur les amendes qui sont perçues de ce niveau, elles sont généralement bien recouvrées.
Ah oui.
Sur ce montant-là, oui. Jusqu'à 200 euros, c'est plutôt bien recouvré.
Donc qu'est-ce qui se passe alors? Donc on paye cette amende sur place. Donc très bien, le cas est réglé. Si on ne le paye pas, qu'est-ce qui se passe? Si on garde l'idée de délit, donc qu'est-ce qui se passe au bout de, je sais pas combien, deux ou trois rappels? Ça marchera comme une amende, comme un feu rouge justement, ou une histoire de stationnement?
Oui, c'est le même principe. Le but, encore une fois, est d'avoir une dimension de rappel interdit, de un petit peu, je dirais, d'avertissement. Voilà. On pose à un moment donné, on dit, attention, on rappelle que c'est interdit, on pose une sanction. Voilà, le recouvrement de l'amende, je pense, en soi, il y a peut-être des procédures à améliorer là aussi. La mission d'information n'avait pas non plus pour but d'aller jusqu'au bout de la procédure. Puisque...
Mais est-ce que dans ces cas-là, monsieur Pouya, pourquoi pas se dire, ah ben c'est 1000 euros? Non mais vraiment, parce que leur dissuasif, c'est 1000 euros du coup.
Elle n'est jamais recouvrée. Et puis en plus, vous allez avoir, ça va influencer fortement du coup les pratiques policières, qui vont avoir tendance plutôt à réprimer ceux qui peuvent payer. Quoi. Donc ce n'est pas le but non plus.
Et de la même manière, comme effectivement vous le disiez, la pénalisation en soi est extrêmement rare, en fait, y compris maintenant. Mmh. Est-ce que vous pensez réellement qu'un policier en patrouille va aller donner une amende à un jeune homme ou une jeune femme qu'il trouvera en train de fumer dans un parc?
Oui, je pense sincèrement, oui. Ils nous l'ont dit en tout cas, oui. Unanime. Et sur le terrain, que ce soit, moi je suis du côté de Bordeaux, que ce soit à Bordeaux, à Lille ou partout, nous ont tous dit une amende, c'est ça qu'il nous faut. Nous, on veut mener des jeunes en garde à vue pour fumer un joint, ils se rendent bien compte qu'il y a une disproportion. Et ils sont pas, ils font pas de, c'est 10 heures de procédure, un simple usage. Donc c'est 600 équivalents temps plein par an et sur l'ensemble du territoire. Franchement, les policiers, les gendarmes, eux-mêmes, ils disent qu'ils ont autre chose à faire que de la procédure pour un joint. Mais une amende, ils le feront bien sûr sans hésitation.
Pierre Coutron, pour les jeunes que vous côtoyez, vous, est-ce qu'une amende pourrait avoir un effet dissuasif ou pas?
Rappeler un interdit, ça a toujours un effet dissuasif. Le problème, c'est que le meilleur interdit, c'est l'interdit éducatif, c'est d'autres règles. L'interdit pénal, pour un certain nombre d'entre eux, il va s'inscrire sur un casier judiciaire. À 25 ans, quand ils vont postuler pour un certain nombre de boulots, ils vont retrouver ça, l'interdit pénal, dans la logique où on est aujourd'hui. Et encore une fois, l'interdit tel qu'il est prononcé, il résulte d'une interpellation faite par des forces de police qui ne sont pas là pour faire de la santé publique, mais du maintien de l'ordre, qui interpellent sur des critères de sécurité publique et de maintien de l'ordre, très peu sur des critères de réguler la question du cannabis. C'est pour ça que ça ne marche pas en France depuis 30 à 40 ans et qu'on a les plus mauvais résultats et qu'on continuera de les avoir parce qu'on continue d'être obsédé par cette partie-là du problème qui est la plus petite partie sur laquelle on devrait travailler.
Éric Pouya, comment ça va se passer à partir de maintenant, la mise en place? Et j'imagine qu'il va y avoir une observation qui va durer, je ne sais pas, 3 mois, 1 an, 6 mois, pour voir un peu si les chiffres bougent.
Alors, on a fait une mission d'information. Donc, la mission
d'information... c'est que le début, on est bien d'accord.
C'est même pas le début, une préconisation. Ouais, on informe celui qui est l'exécutif, celui qui est en charge de décider, que voilà ce que nos travaux ont donné. À lui, c'est-à-dire ça dépend si c'est la ministre de la Justice dans la réforme de la procédure pénale, ou si c'est le ministre de l'Intérieur,
Le ministre de la Santé, c'est toujours marrant que ce n'est pas le ministre de la Santé qu'on interpelle dans ce genre de
situation.
On est complètement d'accord, mais je veux dire, on n'a pas fait une mission d'information sur le problème de l'addiction chez les jeunes, ou de la drogue. On a fait sur une amende.
Ça veut dire que le débat n'est pas clos. On est content de l'avoir ouvert, en tout cas, sur France Inter. Merci à tous pour vos questions. Merci à vous qui avez participé à ce téléphone sonne.
Merci aux auditeurs.